Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 5 août 2016. Au sommaire ce soir.
Jeux olympiques de Rio, la grand-messe commence officiellement ce soir.
Malgré les difficultés, les Africains se sont déplacés et l'Afrique sera avec 54 nations représentées.
En République centrafricaine, audition par la gendarmerie du fils de l'ancien président François Bozizé.
Francis Bozizé fait l'objet, tout comme son père, depuis mars 2014, d'une sanction des Nations Unies, notamment l'interdiction de voyager.
Soudan du Sud, les dirigeants est-africains débattent de la crise ce vendredi à Addis Abeba. L'opposition dirigée par Riek Machar réclame l'envoi d'une force étrangère d'interposition.
Turquie, la purge atteint maintenant les rangs du parti au pouvoir.
Ne manquez pas nos rubriques économie et sport.
Mais d'abord le journal.
En République centrafricaine, interpellation aujourd'hui de Francis Bozizé. Le fils de l'ancien président centrafricain, François Bozizé, a été entendu et maintenu à la section de recherche et d'investigation à Bangui. Les précisions de Freeman Sibila.
Francis Bozizé aurait été interpellé dans la matinée de ce vendredi par une unité de police de la MINUSCA, la force de l'ONU, avant d'être remis aux autorités centrafricaines. Après avoir été entendu pendant plusieurs heures à la section de recherche et d'investigation SRI, l'homme serait placé en détention préventive selon une source proche de cette unité de la gendarmerie. Il est encore difficile de dire avec exactitude ce qui est reproché à l'ancien ministre de la Défense qui a fait son retour à Bangui après 3 années d'exil à l'étranger. Francis Bozizé fait l'objet, tout comme son père, depuis mars 2014, d'une sanction des Nations Unies, notamment l'interdiction de voyager. Son nom est aussi cité dans un mandat d'arrêt rendu public en 2013 par le pouvoir de la CELICA. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La justice guinéenne a remis en liberté aujourd'hui le député Ousmane Gawal Diallo. En attendant son procès fixé au 10 août, le parlementaire avait été placé en garde à vue le 2 août dernier dans une gendarmerie de Conakry à la suite d'une plainte d'un procureur qu'il a inculpé hier soir d'offense au chef de l'État. Monsieur Diallo est membre de l'UFDG, le principal parti de l'opposition en Guinée.
Risque d'inondation au Bénin, au Nigeria et au Niger. L'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé une alerte, les affluents de ce fleuve ayant atteint fin juin un niveau record jamais vu depuis 1957. Il faut dire qu'une crue locale a déjà débuté depuis juin au Niger à la station du Gorwol.
Nigeria, 7 personnes ont été arrêtées pour avoir fourni 9 tonnes d'explosifs et des détonateurs au groupe rebelle qui s'attaque aux installations pétrolières dans la région du Delta. D'après l'armée nigériane, ce matériel a été volé et revendu pour des utilisations illégales.
Et c'est dans ce contexte que les États-Unis mettent en garde leurs ressortissants sur les risques de déplacement dans 20 États du Nigeria en raison des problèmes de sécurité dans le pays. Les États au risque se trouvent notamment dans le nord-est du pays, région en proie à l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Éviter à tout prix l'Adamawa, le Borno et Yobe, assure le département d'État américain.
Battu à Port-Elizabeth et en ballottage à Pretoria, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a subi de lourds revers lors des élections municipales. Nathalie Barge.
L'ANC reste le premier parti au niveau national, mais enregistre un fort recul avec 54,4% des voix, en baisse de 7 points par rapport à 2011. C'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti de Nelson Mandela enregistre un score inférieur à 58% sur l'ensemble du pays. À Nelson Mandela Bay, la métropole qui englobe Port-Elizabeth, l'ANC est battu de plus de 6 points par l'Alliance démocratique, 40 contre 46,7%. Cette défaite pourrait être suivie par d'autres échecs à Johannesburg et à Tshwane, la métropole qui englobe Pretoria. Le dépouillement n'est pas terminé dans ces villes, mais l'ANC, au coude à coude avec l'Alliance démocratique, devrait perdre sa majorité absolue dans les deux municipalités. Clairement, nos électeurs nous ont envoyé des messages un peu partout et nous allons devoir les écouter avec attention, a reconnu le vice-président de l'ANC et de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.
En Éthiopie, les chefs d'État des pays membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, une organisation est-africaine, discuteront aujourd'hui à Addis Abeba de l'envoi au Soudan du Sud d'une force régionale en vue de stabiliser le pays après une nouvelle flambée de violence. Anastasie Tudiech.
Le sommet, auquel ni le président Salva Kiir ni le vice-président Riek Machar ne participeront, doit notamment évaluer la faisabilité du déploiement de cette force au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuvera ou non la création de cette brigade d'intervention. La mission onusienne dans le pays, la MINUS, a été critiquée pour ne pas avoir réussi à endiguer les combats à Djouba début juillet entre partisans de Salva Kiir et de Riek Machar qui ont fait plus de 300 morts et au moins 60 000 réfugiés. Monsieur Kiir affirme quant à lui qu'il n'y a pas de combat à Djouba et il s'est farouchement opposé à l'envoi de nouvelles troupes étrangères, pendant que Riek Machar affirme que la sécurité est inexistante pour le moment à Djouba. Le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis décembre 2013.
Kenya, 40 ressortissants chinois et taïwanais soupçonnés d'appartenir à un réseau cybercriminel ou d'espionnage ont été acquittés ce vendredi par un tribunal de Nairobi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Brésil est en fête, mais sur fond de troubles politiques avec la destitution probable de la présidente Dilma Rousseff qui a été suspendue en attendant le jugement final du Sénat. Les Olympiades de Rio commencent officiellement ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Et VOA Afrique a sur place Alvaro Andrade.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques se déroulera au mythique Maracanã de Rio de Janeiro, le fameux stade qui sera le centre d'attention de 3 milliards de personnes dans le monde. La réalisation a été confiée au réalisateur Fernando Meirelles et est inspirée au Le Carnaval. La musique brésilienne devra également prendre une place primordiale au cœur du spectacle avec notamment la chanson officielle de ce jeu, Alma e Coração, l'âme et le cœur, des rappeurs Thiaguinho et Projota. Caetano Veloso et Gilberto Gil, deux des plus célèbres chanteurs brésiliens participant également à l'émission. Environ 40 minutes après le début des festivités, devra débuter le traditionnel défilé des délégations de chaque pays. Cette année, ce sont 206 pays participants qui sont attendus pour défiler et présenter leurs athlètes. Rio de Janeiro, Álvaro Andrade.
La purge post-coup d'État en Turquie n'a pas épargné les membres de l'administration, vus comme sympathisants du prédicateur en exil, Fethullah Gulen. En effet, le Parti de la Justice et du Développement du président Erdogan a ordonné que ses rangs soient nettoyés des sympathisants de Gulen. Ce dernier, qui vit en Pennsylvanie aux États-Unis, est accusé d'être l'auteur du putsch manqué du 15 juillet. Ankara a réclamé de manière informelle son extradition et un mandat d'arrêt a été émis contre lui cette semaine.
Après un début plutôt timide, l'objectif du président Barack Obama d'accueillir 10 000 réfugiés syriens d'ici la fin du mois de septembre semble en voie d'être atteint. En effet, le nombre d'admissions a fortement augmenté durant les trois derniers mois, selon le département d'État. Du 1er octobre 2015 à aujourd'hui, un total de 8 400 réfugiés syriens fuyant la violence et la persécution dans leur pays d'origine ont été installés aux États-Unis et la moitié d'entre eux ont moins de 14 ans.
La ville de Miami, dans l'État de Floride, fait face à ses premiers cas de contamination autochtone par le virus du Zika. Alors que les habitants s'inquiètent et craignent une répercussion sur l'économie du tourisme, officiellement, tout est sous contrôle. Arzuma Compaoré.
Miami est la première ville américaine à enregistrer des cas de personnes infectées localement par le virus du Zika. C'est dans le quartier de Wynwood, très fréquenté par des touristes et des jeunes, qu'il y a une concentration de la contamination. Quelques commerçants jouent déjà la carte de la prudence et ont suspendu leurs activités pour protéger leurs clients et employés. Le comté de Miami-Dade a pulvérisé des insecticides dans la zone touchée au sol et par voie aérienne. Des sprays anti-moustiques sont distribués aux visiteurs et une page Internet permet aux passants de signaler des endroits où ils voient de l'eau stagnante, propice au développement des moustiques. Le maire de Miami, Thomas Regalado, va même jusqu'à affirmer que Wynwood est, je crois, l'endroit le plus sûr du sud de la Floride, puisque la zone a été traitée. Mais elle note cependant que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'a pas émis de restrictions pour Miami.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle américaine, a reconnu s'être trompé en affirmant avoir vu l'avion transportant une rançon pour la libération de 4 prisonniers américains en Iran. Sur Twitter, Trump s'est ravisé. L'avion que j'ai vu à la télé transportait les otages et non les 400 millions de dollars versés au comptant à l'Iran. La Maison-Blanche soutient que l'argent appartenait légalement aux Iraniens et que c'était un versement partiel pour régler une affaire de vente d'armes datant des années 70.
Bonne nouvelle pour l'économie américaine et par ricochet pour le président Barack Obama et la campagne de Hillary Clinton. Le secteur privé a créé 255 000 emplois en juillet et le taux des salaires a augmenté de 2,6 par rapport à l'an dernier à pareille époque. Le rapport du département du travail des États-Unis, publié ce vendredi, signale que le taux de chômage est resté à 4,9%. Un bémol, par contre, selon un autre rapport, le déficit commercial a grimpé en partie à cause de la faiblesse économique de certains partenaires étrangers qui consomment moins de produits fabriqués aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons tout de suite à l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, présentée par John Lendon.
Au Kenya, plombé par les taux de change et des coûts d'emprunt en hausse, Kenya Airways a enregistré une perte nette de 230 millions d'euros sur les exercices annuels achevés fin mars 2016. Créé en 1977, Kenya Airways était considéré il y a à peine 10 ans comme une des compagnies aériennes les plus rentables au monde. La dette de Kenya Airways excède aujourd'hui le milliard d'euros. La chaîne hôtelière intercontinentale envisage d'ouvrir des établissements dans 3 nouveaux pays en Afrique, notamment en Algérie, en Éthiopie et en Ouganda. Intercontinental comptait déjà 25 hôtels dans 9 pays africains, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya. À l'échelle mondiale, le groupe dispose de 5 000 hôtels et près de 740 000 chambres dans près de 100 pays. 2,6 milliards de dollars, c'est ce que coûte la malnutrition chaque année au Ghana, selon une étude commandée dans le cadre de l'agenda 2063 par l'Union africaine en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Cette étude a été menée pendant 2 ans, de 2013 à 2015.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Jour J pour l'ouverture des JO de Rio. La grande cérémonie, c'est cette nuit.
Pelé, la légende du football brésilien, a annoncé qu'il n'allumerait pas la vasque olympique dans le stade du Maracana pour l'ouverture des Jeux olympiques. En raison de son mauvais état de santé, le roi du football brésilien a réagi à cette nouvelle dans un communiqué diffusé par la presse brésilienne à quelques heures seulement du coup d'envoi de cet événement sportif planétaire.
Et quelles sont les épreuves ce vendredi ?
Début du tournoi de tir à l'arc. Hier, la première journée du tournoi de football masculin a réservé de belles surprises. Match nul 0-0 entre l'Irak et le Danemark. Les Algériens battus 3-2. Mais surtout, le Brésil de Neymar tenu en échec 0-0 par l'Afrique du Sud. Match nul de partout entre Mexicains et Allemands. Le Portugal qui bat l'Argentine 2-0. La Colombie et la Suède font match nul 2-2. Et puis le carton de la soirée, la Corée du Sud qui bat 8-0 les îles Fidji. Et puis la belle performance du Nigeria qui domine le Japon 5-4.
En matière de dopage, le CIO et Thomas Bach sous le feu de violentes critiques en Allemagne.
La décision du CIO d'autoriser 271 sportifs russes à prendre part au JO a suscité de violentes critiques en Allemagne, allant jusqu'à un appel à la démission de Thomas Bach, le patron du Comité international olympique. « On aimerait dire à Monsieur Bach, le match est fini, vous pouvez partir », a lancé furieuse la présidente de l'association d'aide aux victimes de dopage, Ines Geipel, qui œuvre pour les ex-sportifs est-allemands dont la santé a été irrémédiablement dégradée par le dopage d'État dans l'ex-RDA.
Un mot transfert ?
Oui, le défenseur central international camerounais de Toulouse, Jean-Armel Kanabiyik, s'est engagé avec le club turc de Kayserispor, où il rejoint son ancien coéquipier Ali Ahamada. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le TFC.
Merci Nicolas.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce vendredi. Morgane Guiriac, Chérubin Gaby, Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane. Brésil.
Oui, les Jeux Olympiques de Rio, la grand-messe commence officiellement ce soir. Sur place, nous retrouvons Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Quelle est l'ambiance à Rio, Thierry ?
L'ambiance est très belle. Tout est aux couleurs de ces Jeux Olympiques de Rio. Des banderoles, des mascottes partout, des jeunes en t-shirt, des jeunes en casquette Rio. Bref, cette ville a vraiment revêtu sa tenue de ces Jeux Olympiques. Nous avons également appris que les autorités de Rio ont décidé que ces deux derniers jours étaient fermés et payés pour permettre la fluidité dans la circulation, parce que Rio, c'est une ville qui a plein d'embouteillages et surtout de connecter la population, de connecter la ville de Rio à ces Jeux. Donc c'est une très très belle ambiance à la brésilienne. On est dans l'effervescence bien évidemment de la cérémonie d'ouverture qui est prévue à partir de 20h heure de Rio.
Beaucoup d'Africains se sont-ils déplacés pour l'événement ?
Écoutez, nous sommes partis de Kinshasa jeudi, nous sommes passés par Luanda, et à Luanda justement nous avons rencontré une forte délégation venue du Sénégal, composée notamment des taekwondoïnes ainsi que des basketteuses du Sénégal, une délégation du Burundi et une autre du Cap-Vert. C'est vous dire combien l'Afrique est en train de converger vers cette ville de Rio. Et on a vu également quelques personnes qui venaient suivre les Jeux, hein, des passionnés. Malgré les difficultés, les Africains se sont déplacés et l'Afrique sera avec 54 nations représentées, l'une des plus grandes communautés à ces Jeux de Rio.
Alors justement, hein, quelles sont les chances africaines ?
L'idéal pour l'Afrique, c'est de battre le record de Pékin. On se rappelle que l'Afrique en 2008 avait glané 40 médailles, dont 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze, que l'Afrique n'a jamais réussi à réaliser avant, même après, parce qu'en 2012, alors que l'Afrique n'avait réussi à obtenir que 34 médailles, dont 11 en or. On espère bien évidemment faire mieux. On va compter sur le Kenya, l'Éthiopie en athlétisme, même si le Kenya, vous le savez, parce qu'on suit l'actualité sur VOA Afrique, a été un tout petit peu secoué sur cette menace de suspension, le renforcement des mesures contre le dopage et tout. On a vu en football féminin que l'Afrique du Sud ainsi que le Zimbabwe ont trébuché pour leur première sortie, mais en sport de combat également, en judo, en taekwondo, pourquoi pas. On attend également quelques athlètes du continent africain, mais c'est surtout l'athlétisme qui a souvent rapporté des médailles à l'Afrique. Et on espère vraiment que ces pays qui sont forts en athlétisme, j'ai cité le Kenya, j'ai cité l'Éthiopie, je peux citer l'Afrique du Sud également, ces pays vont faire en sorte que l'Afrique glane le plus de médailles possible.
Voilà, c'était Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, qui a fait déplacement à Rio de Janeiro. Retrouvez tout sur les Jeux d'été 2016 sur notre site voafrique.com.
Deux soldats ivoiriens ont été condamnés jeudi à 10 ans de prison ferme chacun pour avoir côtoyé des djihadistes ayant participé à l'organisation de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam. Autre nouvelle, au Tchad, le président Idriss Déby Itno sera investi le 8 août prochain pour un autre mandat de 5 ans à la tête du pays. Le Front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC, créé il y a quelques jours, entend tout faire pour perturber cette cérémonie. De N'Djamena, une correspondance d'André Kodmajingar.
Bien que fragilisé par la démission officielle de Brice Mbaye-Mogou Ndiaye, qui se dit déçu du comportement de ses pairs qui cherchent une visibilité personnelle au détriment d'une lutte commune et celle de Gali Katangouté en séjour médical à l'extérieur du pays, le FONAC, une initiative des partis politiques de l'opposition, ne reconnaissant pas la victoire de Déby, persiste ici dans leur logique de contestation. Le FONAC entend combattre le régime en place par tous les moyens légaux et légitimes, conformément à la législation tchadienne, avec les regroupements des autres partis politique de l'opposition. Le chef de file de l'opposition et coordonnateur de cette plateforme, Saleh Kebzabo, déroule le programme des actions à mener dans les jours à venir ce jeudi au cours d'une conférence de presse.
Le 6 août, nous allons organiser un meeting. Nous avons eu des séances de travail avec d'autres partis politiques de l'opposition qui ont adhéré à notre démarche, pour autant que leur entité n'est pas remise en cause. La deuxième manifestation que nous organisons, c'est la marche pacifique qui aura lieu le 7 août à partir de 14h sur 4 itinéraires qui convergent tous vers le palais du 15 janvier. Et nous avons déjà saisi l'autorité pour lui annoncer tout cela. Nous, on pense que l'autorisation va nous être accordée. La dernière manifestation que nous organisons, c'est la ville morte. Sur l'ensemble du territoire national, le 8 août, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'activité.
Comme il fallait s'y attendre, la réaction des autorités n'a pas tardé. Toutes ces manifestations ont été formellement interdites au cours d'une déclaration faite également ce jeudi par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachir.
J'ai décidé d'interdire le meeting prévu le 6 août 2016 ainsi que la marche prévue pour le 8 août 2016. Et ce, sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont instruits de l'exécution stricte des termes de l'arrêté portant interdiction de ces différentes manifestations.
Jointe au téléphone par VOA Afrique, Saleh Kebzabo estime que lui et ses compagnons de lutte sont dans leur bon droit et ils entendent saisir la justice pour que la situation soit clarifiée.
Moi, j'estime que je n'ai pas de réponse du ministre. Hein. Une déclaration n'est pas une loi ou un arrêté ou un décret. Cette déclaration du ministre ne nous engage pas puisque nous n'avons pas été notifiés. On va rester en justice et on verra bien qui a raison. C'est en référé, donc c'est une procédure immédiate. La justice va trancher dans l'heure qui suit.
André Kodma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et cap sur le Bénin, 4 mois après son élection à la tête du pays, l'homme d'affaires Patrice Talon fait déjà face aux critiques. Une partie de la population et de la classe politique reproche au président de la République une gestion cavalière, centrée sur ses intérêts et ceux de ses proches. Après plus de 100 jours au pouvoir, que retenir? Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
Il aura fallu qu'un seul conseil des ministres pour que la vague des mécontentements se lève, prête à emporter dans ses flots le chef de l'État nouvellement élu et qui le 6 avril dernier a prêté serment sous les vivats et les acclamations du peuple désespéré mais confiant en l'avenir. Mais au premier conseil des ministres, les décisions tombaient et faisaient tant d'heureux que de malheureux. La suspension des concours frauduleux, les nominations de certains artisans, de la victoire du chef de l'État, la résurrection de certaines sociétés de gestion du coton appartenant jusqu'à un passé récent au président de la République et dans lesquels plusieurs milliards ont été investis suite à une décision prise en Conseil des ministres en suffit pour faire déchanter certains. C'est le cas d'un certain Lord Rouenou qui s'est déclaré opposant et qui, à travers des sorties médiatiques et autres, tient des propos bien corsés sur la gestion de l'équipe pour Lord Rouenou. L'homme d'affaires est juste venu remettre ses affaires à flot.
Le chef d'État donc a trouvé bon d'envoyer 48 milliards dans le coton alors que les deux entreprises qui s'occupent donc du coton, l'AIC et Sodeco, ces entreprises-là sont très proches du président Talon. Il se retrouve là. Il est le président du conseil d'administration jusqu'à hier de l'AIC. C'est vrai, il a dit dans le journal Le Monde qu'il a cédé ça à ses enfants. Ses enfants, c'est encore lui. Et donc, on n'a pas apprécié ce fait-là. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui dans une posture de juger parti. Je pense que le peuple doit donc s'apprêter à faire la lutte avec nous.
Il sera rejoint dans son élan par un autre jeune connu pour avoir milité aux côtés du gouvernement défunt. Le Bénin serait, selon ses dires, devenu un État totalitaire.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Quelle est la boussole aujourd'hui de notre gouvernement? Plus de 3 mois après, le gouvernement n'a pas un programme de développement. Sur quelle base les populations vont évaluer l'action gouvernementale si le gouvernement n'a pas un programme de développement? C'est ça qui explique la navigation à vue dans tous les domaines. Le poids est complètement tombé. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais du côté des proches du chef de l'État, on préfère se garder de répondre à ce genre de provocation, guidée selon eux plus par le désir de se venger d'une déculottée dans les unes que d'une volonté de construire et de participer au développement national.
Je veux vous faire remarquer que le président Talon est un pur produit du secteur privé. Premier élément, fondamental. Donc c'est quelqu'un qui a appris à être rationnel. Il n'a pas appris à gaspiller les ressources. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il a réussi. Donc je le vois déjà venir transposer le système privé, hein, fondé sur la rationalité, la rigueur dans le système de gouvernance publique.
En attendant une opposition fiable pour seconder la veille citoyenne qui se fait par la société civile, les Béninois continuent de croire que Patrice Talon conduira le bateau bénin à bon port, même si certains ont perdu l'espoir. De Cotonou, Jeanette Le Adondé pour VOA Afrique.
C'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 3 mois de la présidentielle. On retrouve Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, chérubin.
La mauvaise semaine de Donald Trump se poursuit, Nicolas.
Attendu à Green Bay, dans le Wisconsin, le candidat républicain déplore des absents de marque pour ses meetings qui auront lieu ce week-end dans la ville, notamment Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, ou encore Scott Walker, le gouverneur de l'État.
Autre attaque plus sérieuse de la part d'un ancien dirigeant de la CIA.
Michael Morrell, ancien directeur par intérim et directeur adjoint de la CIA de 2010 à 2013, a signé une tribune cinglante dans le New York Times pour annoncer qu'il voterait pour Hillary Clinton en novembre. La première fois que cette personnalité du monde du renseignement sort de sa réserve. Mais l'ex-maître espion va plus loin en soulignant que M. Trump avait fait part de son admiration pour les qualités de leader du président russe Vladimir Poutine. Et selon Michael Morrell, Vladimir Poutine lui-même, ancien agent du renseignement russe, a identifié et exploité les vulnérabilités de Donald Trump au début des primaires en le complimentant. Pas de réaction pour le moment de la part de l'équipe de campagne de Donald Trump.
Barack Obama répond à Donald Trump.
Oui, le président américain qui trouve ridicule les accusations de fraude électorale avancé par Donald Trump au sujet de la présidentielle de novembre prochain. Il l'a dit hier lors d'une conférence de presse depuis le Pentagone à Washington.
Bien sûr que les élections ne seront pas truquées. Qu'est-ce que cela veut dire? Le gouvernement fédéral ne gère pas le processus électoral. Les États, les villes et les communautés à travers le pays s'occupent du système électoral et des bureaux de vote. Si M. Trump suggère qu'il y a une conspiration en cours à travers le pays, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens et je ne pense pas que les gens le prendraient au sérieux.
Barack Obama, le président des États-Unis.
Et on reparle de Bernie Sanders.
Dans une tribune publiée dans le Los Angeles Times, l'ancien candidat à l'investiture démocrate appelle ses supporters à soutenir Hillary Clinton. Je comprends que beaucoup d'entre vous soient déçus par le résultat final et le processus de nomination. Mais être abattu et inactif ne va pas améliorer les choses, déclare le sénateur du Vermont. On rappelle, chérubin, qu'Hillary Clinton reste très impopulaire parmi les soutiens de Bernie Sanders.
Merci Nicolas Pineau. La campagne présidentielle américaine, c'est à retrouver dans un dossier spécial sur voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Joseph Morissin a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nick Ivanov à la console. Présentation Morgane Guériac et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Je vous invite tous à retrouver John Lennon à 19h, temps universel, dans l'Amérique et vous. Au menu des échanges, le YALI, Young African Leadership Initiative. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook, on maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos, 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.